Session sur les trois sagesses par le Père Marie-Dominique Philippe, première conférence, le 20 septembre 2001 à Saint-Judas.
Normalement, aujourd'hui, c'est la troisième sagesse dont parle saint Thomas. Mais je reviens un instant sur la sagesse théologique, la plus délicate. Elle est entre les deux autres. Les deux extrêmes sont beaucoup plus simples, comme toujours. C'est ce qui est au milieu qui est le plus difficile. Le point de départ, noviciat, un départ magnifique, splendide. Tant qu'on est au début, la fin, il faut bien espérer que ce soit magnifique. Puis il y a l'intermédiaire. Hein. Comme le démon est malin, c'est le malin. Il sait très bien ça. Il attaque. Et pour nous, c'est la sagesse théologique qui est ce qui est le plus délicat. Et j'ai oublié, parce que je n'ai pas eu le temps, je voulais le dire, mais la sagesse théologique est science subalternée. Elle est sagesse et science. Et c'est toujours pour ça un peu le conflit chez les théologiens. Il y en a qui insistent sur la science, il y en a qui insistent sur la sagesse. Alors, si on insiste sur la science, il ne faut surtout pas oublier qu'elle est sagesse. Si on insiste sur la sagesse, il ne faut surtout pas oublier qu'elle est science. C'est très curieux. Hein, c'est un être très complexe, la sagesse théologique. C'est pas commode à préciser. Alors saint Thomas a précisé que science, elle était science subalternée. Bon, il a pris ce terme d'Aristote. Les sciences subalternées, c'est les sciences secondaires. L'astronomie, je prends l'exemple d'Aristote, science subalternée. La musique, science subalternée. La rhétorique, un art et une science. Il y a beaucoup de choses qui sont art et science. Prenez l'éducation, c'est un art. Alors c'est subalterné à la philosophie. S'il n'y a pas une philosophie derrière, eh bien, la théologie est une science subalternée à la vision béatifique, à la science des saints. Au fond, la théologie ne sera complète qu'au ciel. Dites-vous bien ça. Sur la terre, elle est science subalternée, c'est-à-dire dépendante du ciel, de la vision béatifique. Elle reste toujours une science inachevée. Elle sera achevée dans le ciel. Et ça, c'est très important de se rappeler ça. Parce qu'on voudrait toujours que la théologie soit une science parfaite. Elle ne l'est pas. Elle ne peut pas l'être. Parce que la dimension devenir est essentielle. L'Église qui porte la théologie, qui porte les théologiens, et donc qui porte la théologie, elle a dans son sein un saint Augustin, théologien, un saint Thomas, théologien, un saint Anselme, théologien, un Don Scott, théologien. le bienheureux Don Scott. Saint Bellarmine. À Fribourg, on aimait bien Saint Bellarmine. Alors, c'est pas commode, hein. C'est pour ça qu'en théologie, je crois qu'on doit être très souple. Il y a, comme l'Église, hein, l'Église a accepté, elle n'a pas condamné, loin de là. Elle a considéré que Saint-Augustin, c'est le grand-père. Donc elle l'a accepté. C'est le grand-père. Il peut avoir des choses qui ne sont pas toujours très vraies, mais ça a été corrigé par saint Thomas. Ça a été précisé par saint Thomas. Mais saint Augustin demeure toujours une source plus souple. Quand vous aurez le temps de lire le De Trinitate de saint Augustin et le De Trinitate de saint Thomas, vous comprendrez. C'est très intéressant de faire la comparaison. Parce que c'est à propos de la très sainte Trinité qu'on peut juger l'acuité d'une théologie. Toujours, puisque la très sainte Trinité, c'est justement là où je ne peux parler qu'en croyant. Je ne peux pas. Le philosophe s'incline devant la très sainte Trinité. Il s'incline profondément. Et on est obligé de se servir de la philosophie en ramant beaucoup. La relation va jouer un rôle capital dans la théologie, mais ce ne sera plus la même relation. Ce sera une relation subsistante. Ceux qui ont fait un peu de philosophie savent très bien que la substance, c'est premier, la relation, c'est l'être, comme dit Aristote, le plus débile. Eh bien, pour préciser ce que c'est que la personne divine, je me sers de la substance et de la relation. Et j'ai une relation subsistante. Vous voyez, tout craque. Faire du plus petit, relation subsistante. Relation et substance s'unissent. Et pour définir une personne divine, pour essayer de préciser, théologiquement, pas définir, mais préciser, je dis relation subsistante. Je me sers des deux extrêmes. Et je les étudie en Dieu. La substance, la relation. Alors, c'est ça qui est typiquement théologique. C'est que le point de vue sagesse, le point de vue science, précision scientifique, ça reste toujours subalterné. Et on a la tendance, je crois que c'est le péché capital des théologiens, ça, de beaucoup de théologiens, c'est de vouloir en faire une science parfaite. Alors que c'est une science subalternée. Elle est science grâce à la vision béatifique. Je ne l'ai pas, la vision béatifique. Je suis suspendu à la vision béatifique. La théologie est suspendue à la finalité. Je suis fait. Le théologien doit se dire, je suis fait pour la vision béatifique. Ce n'est que quand je verrai Dieu face à face que la parole de Dieu prendra tout son sens. tant que je n'ai pas vu Dieu face à face, la parole de Dieu est une attente. Elle monte. Elle est en attente. Une flèche qui va vers un but, elle est orientée vers le but. Si vous supprimez cette orientation vers le but, vous-même, vous matérialisez tout. Et qu'est-ce qui matérialise la théologie ? C'est la logique. Parce que le théologien reste, quand théologien, au niveau scientifique, il reste toujours dans un état de dépendance. Or, la science réclame l'autonomie. Elle n'a pas d'autonomie. Elle est toujours en dépendance de la vision béatifique. C'est ce qui fait que la théologie est toujours, pour l'intelligence humaine, insatisfaite. On n'est jamais satisfait. En philosophie, on peut avoir une satisfaction analogique, c'est-à-dire très pauvre, mais on a une satisfaction. En théologie, on reste le bec ouvert. On attend la vision béatifique. Et quand il y a des disputes entre les théologiens, attendons la vision béatifique pour voir qui aura raison. Parce que sur Terre, on est dans un état imparfait, science subalternée. On oublie beaucoup trop ça, ce que saint Thomas dit, science subalternée. C'est-à-dire une science qui ne peut pas se suffire en elle-même et par elle-même. Elle a besoin de s'appuyer sur une vision terminale qui et le dépassement de la théologie dans la vision béatifique. C'est vrai, dans la vision béatifique, tout sera clair, tout sera lumineux. Ici sur Terre, c'est obscur, et ça reste en obscurité. Et on voudrait avoir l'évidence, on ne l'a pas. On peut avoir une évidence logique, mais qui n'est pas théologique, qui est tout simplement le soutien. Alors, il y a des gens qui aiment mieux le soutien, parce que c'est sûr, mais le soutien lui-même n'a pas de sens. Ce qui est intéressant, c'est le mur qu'il soutient. C'est ça qui est important. Ce qui est important en théologie, c'est qu'on est orienté vers la vision béatifique. Et on a toujours resté le bec ouvert en attendant d'avoir la vision béatifique. C'est très beau ça, d'avoir précisé que la théologie est science subalternée. Pour les théologiens, c'est pas commode d'être une science subalternée. Quand on est en face d'autres savants qui ont des sciences qui ne sont pas subalternées. Les mathématiques ne sont pas une science subalternée. C'est une science qui a son indépendance, sa perfection, intrinsèquement. De sorte que le pauvre théologien en face d'un matheux, il est toujours le bec ouvert. Il ne peut pas, avec autant de sécurité, autant de force affirmer sa conclusion. Bon, ça demande, pour être un vrai théologien, ça demande une très grande pauvreté. Et c'est la sagesse théologique qui me permet d'avoir cette pauvreté. C'est la sagesse théologique. Parce que la sagesse réclame tout de suite la pauvreté. Alors, si on est très fixé sur l'aspect scientifique, on a beaucoup de peine de maintenir cette pauvreté et on se rabat sur la logique. C'est le mouvement normal et historiquement, c'est le mouvement qu'on voit. On voit très bien qu'au XIVe siècle, après Thomas d'Aquin, où la théologie a eu un sommet, tout de suite, il n'y a pas de successeur de Thomas d'Aquin. Il laisse sa théologie pour l'avenir, pour après. Elle a des successeurs en nous, mais immédiatement après Thomas d'Aquin, qu'est-ce que vous avez comme disciple de Thomas d'Aquin? On va tout de suite commencer dans les querelles scotistes et thomistes. Donc, la discussion entre frères sera majeure. Alors que la discussion entre frères, pour une science subalternée, ne devrait jamais être majeure. C'est la finalité qui prime. Science subalternée. Ce qui m'intéresse, c'est qu'elle est subalternée à quoi ? À la science des saints. Ça met la théologie dans un état très particulier d'être une science subalternée. Voyez, je ne dis pas une sagesse subalternée. La sagesse ne peut pas être subalternée. Mais la science peut être subalternée. Comme science. On dit qu'une science est subalternée lorsque les principes de cette science sont saisis par la science principale à laquelle elle est subalternée. Une science subalternée croit, n'a pas la vision, n'a pas l'évidence de ses principes. Donc elle marche avec une canne. C'est déjà bien qu'elle marche avec une canne. Grâce à l'empreinte métaphysique, elle s'appuie sur cette canne. Mais jamais la métaphysique ne sera une lumière pour la parole de Dieu. Elle sera subalternée. Elle aidera à pouvoir dire correctement le mystère sans biaiser, en reconnaissant que le mystère dépasse et que le mystère, je ne peux pas l'enfermer dans une parole humaine. Ni le grec, ni le latin, ni l'anglais, ni le français, ni l'allemand est capable de définir le mystère. Aucune langue. Par le fait même, aucune logique. Puisque la logique est liée à la langue. Elle est liée à la proposition. Elle est liée au langage, à ce que je conçois et ce que je dis. Alors elle est liée, pas directement à la parole, elle est liée à ce que je conçois. Alors, l'anglais et le français peuvent se rejoindre dans ce qu'ils conçoivent. Mais quand ils se mettent à parler, c'est différent. Mais dans ce qu'ils conçoivent, ah, on n'est plus dans la langue, on est au-dessus de la langue, ce que je conçois. Je peux le concevoir avec la langue, mais je peux le concevoir au-delà de la langue, dans la pure intelligibilité. Le concept intérieur est au-delà des langues. Il se traduit. Et la foi est au-delà, infiniment, de tous les concepts. Parce que c'est une adhésion au mystère de Dieu. Et le mystère de Dieu est infini. Vous voyez les trois étages. L'adhésion de foi, le concept, la parole. Trois étages. Il faut toujours bien être conscient, je suis à quel étage. Alors quand je descends au premier étage, pensant que c'est le dernier, c'est la tour de Babel. On ne se comprend plus. Quand j'arrive au second étage du concept, ah, c'est différent. Alors on a des luttes très savantes. Les philosophes qui luttent, les théologiens qui luttent au niveau du concept. Et puis quand j'arrive au troisième étage, la vision béatifique, silence. Silence. C'est tellement grand. Bon. Alors, il ne faut jamais oublier que la théologie est sagesse et science subalternée. Donc, au niveau science, elle reste seconde. Elle n'est pas première. Parce qu'elle n'a pas la saisie évidente des principes. Elle les reçoit. Et dans ce sens-là, qu'elle est toujours en dépendance de la foi. Celui qui n'a plus la foi n'est plus un théologien. Il érige sa science subalternée en absolu par la logique. Et dans l'histoire des théologiens, on voit bien ceux qui gardent la contemplation théologique. Et dans la contemplation théologique, ils sont en attente de la vision béatifique. La théologie doit augmenter en nous l'attente de la vision béatifique. Le désir de la vision béatifique, le désir intense, parce qu'on voit toute la grandeur du mystère. On dit, un jour, je verrai ce mystère. Et on est vraiment théologien quand on est toujours dans cette attente. Autrement, on fait de la théologie une science pour elle-même, ce qui est faux. Elle est science subalternée. Et c'est ça, je crois, qui est le plus grave dans la théologie. C'est qu'on ne regarde plus la théologie comme une science subalternée, on la regarde comme une science principale. Alors, troisième type de science, de sagesse. Parce que la science, c'est toujours la science. C'est la saisie des principes et des conclusions de ce qui dépend de ces principes. La parole de Dieu, il faut regarder la parole de Dieu, qui est le moyen par lequel j'adhère au mystère divin. La parole de Dieu est ordonné à l'amour. Toute parole divine est ordonnée à l'amour. Parce que la parole de Dieu, c'est la parole d'un père, d'un ami. Déjà, au point de vue humain, nous savons très bien que autre chose est recevoir la lettre d'un ami très cher qu'on n'a pas vu depuis 10 ans. Et on reçoit enfin une lettre. Et on dit, qu'est-ce que tu as ? Ah, j'ai reçu une lettre de mon ami. Quand vous recevez une lettre du commerçant d'à côté, que vous n'avez pas payé ce que vous avez acheté, c'est pas très fort ordonné à l'amour. C'est ordonné à l'argent. C'est tout à fait différent. La parole humaine, elle est faite pour le commerce, oui. Et on sait bien qu'elle est faite pour le commerce. Elle est faite pour des lettres d'amour. Je prends les deux extrêmes. Et l'interprétation de la lettre d'amour et l'interprétation de la lettre du commerce, pas tout à fait la même chose. Ceux qui sont de merveilleuses herméneutes interprétations, qui interprètent, ils sont des herméneutes. Ceux qui sont des merveilleuses herméneutes au point de vue des lettres d'amour. J'ai reçu cette lettre. Oh, vous qui connaissez bien Stock, qui a très bonne herméneute de lettres d'amour, interprétez-moi cette lettre. Qu'est-ce qu'il veut dire exactement? Et j'interprète en fonction de l'amour qui finalise cette lettre. Deux amis s'ils s'écrivent. Oui, c'est bien pour donner des petits renseignements. Mais c'est surtout pour éveiller le cœur de l'ami. Je t'écris ça à toi, je ne l'écris à personne d'autre. Ah. Pour qu'il éveille en toi l'amour que nous avons. On ne le dit pas, mais c'est toute la lettre qu'il dit. Il y a un herméneute qui interprète. Et tu voyez, par la finalité, elle est nette. Votre ami vous écrit comme ami, donc pour toucher votre cœur. Alors que si vous recevez la lettre d'un commerçant où vous avez acheté lourdement et que vous avez oublié de payer, ça s'interprète univoquement, hein, terriblement univoquement. Tu dois tant. Pas la peine de discuter. Tu dois tant. Et tout le monde est d'accord. Tandis que dans la lettre de l'ami, vous voyez, les interprétations sont multiples. Hein. Ça dépend du degré d'amour que vous, dans lequel vous êtes. Quand vous avez reçu une lettre d'un ami et que vous la faites lire par quelqu'un qui ne sait absolument pas ce que c'est que l'amour, ça existe hélas, il ne comprendra rien. Il n'y comprendra rien du tout. Oh, c'est drôle cette lettre, hein. C'est curieux. Ça ne dit rien. C'est métaphorique, hein. Il vous dira, ça c'est métaphorique. Oh, il dit ça parce que pour te faire plaisir. Mais ça ne veut rien dire de réel, c'est métaphorique. Des fleurs de rhétorique. C'est très beau. Ça. Au point de vue humain, nous comprenons très bien ça. Au point de vue divin, toute parole divine est ordonnée à l'amour. Si Dieu nous parle, c'est en ami, c'est en père. Et lorsque Dieu nous parle à travers son Fils, c'est l'ultime révélation. Avant, il pouvait y avoir beaucoup de choses moins immédiates. Tandis que quand Jésus me parle, ça a une portée tout autre. Et ça, on le comprend bien. Quand vous lisez l'Ancien Testament, c'est merveilleux, c'est beau. Quand vous lisez la Genèse, c'est très beau. Mais quand vous lisez la prière, 17e chapitre de Saint Jean, la grande prière pour l'unité, c'est tout autre. La finalité est beaucoup plus exprimée, elle est beaucoup plus donnée dans les écrits de Saint Jean, où je ne comprends rien à la parole de Dieu si je ne la regarde pas du côté de la finalité. Vous voyez, la parole divine, la parole que Dieu m'adresse par les prophètes, la parole que Dieu m'adresse par son Fils bien-aimé, il y a quelque chose de différent. Il y en a une qui est une prière d'attente, où l'espérance domine, et l'autre où l'amour domine. Il y a une qualité de parole divine toute différente. Et les bons exégètes savent ça, qu'on ne peut pas interpréter de la même façon la parole de l'évangile de Saint Jean et la Genèse, et que tous les deux sont très intéressants, et tous les deux ont leur absolu, mais l'un ultime, l'autre en préparation. Autrement dit, la parole du Christ a une dimension pour ma foi qui est tout autre et que je dois recevoir justement avec ce souci de savoir que c'est la parole d'un ami, c'est la parole du Sauveur, c'est la parole de celui qui me choisit et qui me choisit pour vivre avec lui comme un enfant, comme un fils bien-aimé. Il y a donc, dans le mystère même de la parole de Dieu, des degrés d'intensité, d'amour, d'orientation vers la fin. Je dois pouvoir saisir cela. Au point de vue de ma vie intérieure, quand je lis l'évangile de Jean comme Jésus qui me parle, qui m'éduque, comme si Marie était là pour m'aider cet évangile prend une force toute spéciale. Et quand je lis la grande prière de Jésus et que je la vis au-dedans de moi, il y a une intimité avec Jésus tout autre que lorsque je lis même le Cantique des Cantiques. Il y a une proximité avec Dieu, une unité avec Dieu, toute différente. Je dois pouvoir exprimer cela et le montrer. C'est bien le devoir du théologien. D'exprimer cela, d'exprimer autant qu'on le peut cette intimité avec Jésus, avec le Père, qui se réalise à travers sa parole divine. Et sa parole divine prise dans son sens le plus absolu, est une parole qui veut cette unité, qui réalise cette unité. Et je veux exprimer alors tout le mystère qui est contenu dans cette unité. Et très souvent, surtout dans l'Ancien Testament, Dieu parle avec un langage symbolique qu'on emploie automatiquement quand on aime quelqu'un. Quand vous voulez exprimer votre amour, immédiatement un langage symbolique. Parce que c'est tellement difficile. L'amour n'a pas de mots propres. C'est ça la chose terrible. Chaque fois que je traduis l'amour, je le traduis en un langage intellectuel. Ça ne va pas. Alors c'est pour ça qu'on se sert du geste. Le geste n'est pas intellectuel. Pourquoi les amoureux aiment le geste ? Pourquoi l'amour se traduit par un geste ? Petite tape, petite caresse. Il n'y a pas de parole, il y a le silence. C'est parce que la parole est toujours intellectuelle. Il n'y a pas un langage propre d'amour, si ce n'est le geste, un prolongement de l'amour. Mais le geste lui-même est matériel comparativement à l'amour. Donc il est métaphorique. Et tous les gestes sont métaphoriques. Mais je me sers de ces métaphores pour exprimer quelque chose de tout intérieur. Alors, distinguons bien, parce qu'autrement on fait là des erreurs graves, distinguons bien notre vie mystique, notre vie d'intimité avec Dieu, avec Jésus, avec Marie, quand nous faisons oraison, et quand le Saint-Esprit nous aide, nous sommes vraiment sous l'emprise du Saint-Esprit. Nous restons en silence auprès de Dieu. Puis quelquefois, nous l'exprimons. Bon, notre vie mystique, elle conduit au silence. Et c'est vrai qu'elle conduit au silence, notre vie mystique. le don de sagesse nous conduit au silence d'amour. C'est qu'on est en présence. C'est la présence. Je ne peux pas être en présence de Dieu sans être silencieux. Et je sais très bien que cette présence silencieuse est plus que tout. Cette présence silencieuse avec Dieu, elle est plus que tout. Elle ne peut pas s'exprimer. Elle se vit. Et on est tout entier dépendant de Dieu, de son amour. On est dans son amour et on demeure et on veut demeurer dans son amour. Il m'aime et je me tais. Donc, la vie mystique conduit à ce silence. Et plus cette vie est profonde, plus elle me mène dans le silence. Je ne peux rien dire. Je ne peux rien en dire. Mais je la vis dans une expérience intérieure qui n'a même pas de mots. Le silence de Dieu en moi, le silence de l'amour. J'aime. Non, ça, c'est la vie mystique. La vie mystique, la vie de raison, si vous voulez. La vie de raison doit tendre à cette vie mystique, à cette vie d'intimité avec Dieu. Où toute la théologie est loin. C'est vrai, le théologien, c'est toujours un peu un serviteur ou un apôtre. Il y a les deux aspects, serviteur et apôtre. On ne peut pas, je crois que ce n'est pas tout à fait juste, les personnes qui disent « ce matin, dans la raison, j'ai eu telle grâce ». Dans sa prédication, il dit ça. Non, on ne dit pas, vous ne dites pas vos grâces personnelles en prédication. En prédication, vous rappelez le mystère de Dieu, sa présence. Et vous ne dites pas, j'ai, à partir de ce moment, été transformé parce que l'action de Dieu a été tellement forte sur moi que je me suis retrouvé dans le silence complet en Dieu. Je ne dis rien, puisqu'il y a un silence complet. Et dès que je veux dire quelque chose, je sors de ce silence. Donc la vie d'oraison, elle se termine en silence. Mais il peut y avoir une théologie mystique. Oui, parce que très souvent, l'obstacle vient de là, c'est qu'on dit, mais est-ce que c'est la mystique ? Mais non, c'est pas la mystique, la théologie mystique. La mystique, c'est le silence personnel avec Dieu, dans le cœur de Jésus. C'est le silence du Fils face au Père, et aimant le Père, et l'aimant dans un amour qui prend tout. Et je ne cherche pas à le traduire. Non. Je n'ai pas besoin de le traduire. C'est un secret. C'est un secret d'intimité, d'union avec Dieu. Je peux faire une théologie mystique. Alors, du fait même que c'est une théologie mystique, c'est la communication aux autres de ce qu'il y a de plus intime dans ma vie chrétienne. Ça reste objectif. La théologie mystique reste objective. Elle traduit profondément mon intimité avec Dieu. Elle sait le traduire le mieux possible par le point de vue de la causalité finale. Dans la théologie scientifique de sagesse, c'est la cause formelle qui est toujours présente. Pour pouvoir l'exprimer d'une façon scientifique. Et je dois tout exprimer d'une façon scientifique. La somme théologique de saint Thomas est une merveille pour ça. C'est une théologie scientifique et sagesse. Mais je puis, parce que la parole divine est source d'amour, je puis essayer en théologie mystique d'exprimer ce qui est l'ultime exigence de la parole divine. Et je maintiens toujours la parole divine. Mais l'ultime exigence, je prends un exemple, puisque c'est important de prendre un exemple pour saisir. Je puis très bien lire l'évangile de saint Jean uniquement en théologien scientifique, science et sagesse. Je peux lire l'évangile de saint Jean d'une façon ultime, par la causalité finale qui prime. Je saisis alors comment toute parole divine inspire l'amour, conduit à l'amour, s'épanouit en amour. Et je regarde alors, par exemple, dans ce premier geste du Christ dans sa vie apostolique, Cana, j'essaie de saisir pourquoi l'évangile de Jean, qui veut montrer avant tout combien Jésus me conduit au Père, qu'il est le Fils bien-aimé, qui n'a pas d'autre exigence que de me conduire au Père. Comment l'évangile de Jean doit être regardé dans une lumière ultime de sagesse, de finalité. C'est la finalité que je mets en pleine lumière. Jésus se sert d'un repas de noces pour commencer sa vie apostolique. Pourquoi ? Il se sert d'un repas de noces parce que la vision béatifique, ce sont nos noces chrétiennes. Et j'exprime le mystère de la vision béatifique par un mystère de noces. C'est ultime, c'est dernier. Je suis fait pour cela. Je suis appelé à ces noces. Et toute ma vie est orientée à ces noces. Et tout est vraiment pris par là, purifié. Je suis décanté de toutes les choses secondaires qui m'arrêteraient, qui m'empêcheraient d'aller tout de suite vers ces noces. Ce serait un poids. Je comprends que je suis fait pour ça. voyez, il y a une lecture différente de la parole de Dieu qui se fait par la finalité. Et ça vient après l'autre. La première lecture, c'est de voir qu'est-ce que c'est. La seconde lecture terminale, tout ce que Jésus fait, c'est pour nous conduire le Père. Ça, j'affirme ça avec netteté, parce que je sais que c'est ça, dans la foi. Jésus ne fait rien qui soit en dehors du royaume de Dieu. Jésus ne fait rien en dehors de ce qui me conduit directement à la vision béatifique, aux noces d'amour. Et donc, j'essaie, je balbutie, pour essayer de comprendre ce que cet aspect ultime qui m'est donné. Vous comprenez, je n'ai pas le droit de dire ça n'a pas d'importance. Non, alors la finalité de toute la vie du Christ m'échapperait. Alors que je sais que tout dans la vie du Christ est finalisé directement vers le Père. Il est un Fils parfait qui n'existe que pour le Père. Il est tout entier tourné vers le Père. Et tout ce qu'il dit exprime cet amour. Oui, alors, ce n'est plus l'intelligibilité de la parole. La parole divine est souverainement sage, intelligente. Mais c'est en tant que le geste du Christ, que la parole du Christ me conduit vers cette finalité d'amour avec le Père. Et l'évangile de Jean réclame cette lecture pour que je puisse aller jusqu'au bout de l'intelligibilité amoureuse de la parole de Dieu. Toute parole divine spire l'amour. Toute parole divine spire l'amour. Eh bien, j'essaie de comprendre comment cette parole spire l'amour. Toute parole divine spire l'amour. Je peux très bien ne pas le comprendre, dire je ne sais pas. C'est pour ça que la théologie mystique exige la prédication. C'est en prêchant la parole de Dieu que je la comprends le mieux. C'est très curieux ça. Et c'est là où je comprends qu'il y a dans la parole de Dieu un mystère de finalité que je ne puis saisir qu'en prêchant, je porte la parole de Dieu, et la parole de Dieu est vivante dans le prédicateur, quand il prêche vraiment, quand il prêche en sachant qu'il prêche comme l'envoyé du Christ, et que il est porté par sa mission divine. Et quand j'ai prêché en me servant de la parole de Dieu, sur ce que Jésus me dit, je comprends alors qu'il y a un sens ultime de la parole de Dieu. Verbum spirans amorem. La parole qui spire l'amour, la parole qui conduit à l'amour. C'est, je crois, cela qui fait le mieux saisir ce que doit être cette théologie mystique. Cette sagesse mystique, ce n'est pas la mystique, mais c'est la sagesse mystique. On essaie d'exprimer ce que le don de sagesse en moi me fait vivre. Le don de sagesse en moi me donne de la parole de Dieu une signification ultime que je découvre pour les autres et pour moi et pour les autres. Il y a là quelque chose qui permet de comprendre que la théologie doit fleurir dans cette théologie mystique qui me montre combien la parole de Dieu est un secret d'amour. Elle porte un secret pour chacun d'entre nous. Et tant que nous n'avons pas saisi ce secret dans la parole de Dieu, nous n'avons pas saisi la parole de Dieu comme une parole divine qui m'éduque dans l'ordre de l'amour et qui me conduit à l'amour et qui est porteuse d'amour et qui me transforme progressivement dans l'amour de Dieu. La parole de Dieu est ordonnée à ça. Elle est ordonnée à la connaissance. Il faut connaître Dieu. Si je le connais, c'est pour l'aimer. C'est pas uniquement pour connaître Dieu. C'est pour l'aimer. Et comment je fais ce passage de la connaissance à l'amour? C'est important pour moi de développer ça. Le plus que je peux le développer. Alors là, je suis en présence de ce que je peux appeler une théologie mystique, qui présuppose, vous voyez, au fond, c'est la fameuse question, est-ce que je peux être théologien si je suis un pécheur, un orgueilleux fini, un vaniteux fini? Est-ce que je peux être un théologien? Est-ce que le théologien ne peut être vraiment théologien que s'il tend vers la sainteté? Résolvez ce problème-là. Posez-vous la question comme ça, dans ces termes-là. Est-ce que je peux être un théologien en continuant d'avoir une vie de schnappant? Bon, je fais mon cours de théologie, puis après, je suis ivrogne. Après tout, c'est ma vie privée, ça. Et tous les soirs, je suis complètement sous. Puis le lendemain matin, la nuit passée, j'arrive à faire mon cours. Est-ce que mon cours de théologie sera meilleur parce que je suis saoul le soir? Ou qu'il sera au contraire moins bon? Est-ce que pour enseigner la théologie, ne faut-il pas vraiment être l'ami de Dieu? L'ami du Christ? Et tendre vers cette amitié le plus possible pour que la parole du Christ devienne pour moi ce secret. C'est ça la théologie, et non pas uniquement se battre à l'égard de tel théologien qui dit des erreurs. Non, on fait la théologie pour pouvoir prêcher dignement, et on prêche dignement à ce moment-là. On comprend qu'il y a beaucoup de choses dans la parole de Dieu qu'on n'a pas découvert par la théologie scientifique. Alors je prends la prédication pour une religieuse, elle ne prêche pas, elle peut quand même comprendre et faire de la théologie mystique sans prêcher. Parce que la parole de Dieu lui est donnée pour qu'elle-même se sanctifie. Mais si elle ne tend pas vers la sainteté, je crois que la théologie mystique, parce que c'est un problème assez délicat, est-ce qu'un pécheur peut être un théologien ? Il peut être un théologien au point de vue science, au point de vue sagesse.